Est-ce que maintenant il y a du son? Est-ce qu'il y a du son? Est-ce qu'il y a du son maintenant? Est-ce que maintenant il y a du son? Oui, non, Houston? Oui! Eh ben voilà! On a réglé le problème! Tov! Alors, Boker Tov! Boker Tov! On peut commencer! Puisque maintenant on a du son, on est parti! Yofi! Donc, comme je le disais, on reprend notre étude sur la Tefila et on est arrivé, Beshara Tova Mutzlachat, à la dernière des Birkot à Bakasha. Comme je le disais, je vous le rappelle, la Amida, la Shemona Esrei, est constituée de trois temps. On a 3, 13 et 3, c'est-à-dire 3 premières brachot, ensuite 13 brachot et ensuite 3 dernières. Les 3 premières brachot étant des brachot de Shevar, c'est-à-dire pour passer la pommade, comme on avait expliqué, mais en gros, pour expliquer à qui je m'adresse. 3 brachot à la fin pour dire merci. Et 13 brachot au milieu pour demander tout ce qu'on a à demander à Dieu. Donc, nous sommes arrivés maintenant à la dernière des bénédictions, des demandes. La 13e brachot, 13e brachot sera de Birkot Abakasha, Birkat Shomea Tefila. Seulement, la question est la suivante. Qu'est-ce qu'on a à demander encore à Dieu? A priori, on a tout ce qu'il faut. On a demandé tout ce qu'on avait à demander. Si on regarde dans le texte de la Tefila, je prends un sidour, si on regarde dans le texte de la Tefila, eh ben, je vois mal ce qu'il nous reste à demander. Puisqu'on a demandé date, comprendre de quoi on parle. On a demandé ensuite de revenir vers Akadosh Baruch Hu. Ensuite, on a demandé dans Hashiva Shoften. Ensuite, on a demandé qu'il nous pardonne de nos erreurs. Tlachlano. On a demandé qu'il règle nos problèmes avec les goyim. Rena Bonieno. Ensuite, on a demandé qu'il nous donne la refoua. Ensuite, on a demandé qu'il nous donne la parnassa. Ensuite, on a demandé qu'il nous donne la geoula, kibbutz agaluyot. Ensuite, on a demandé qu'on revienne, on remette en place le mishpat. Ensuite, on a demandé qu'il s'occupe de ceux, de nos ennemis, de ceux qui nous veulent du mal. On a fait une bracha particulière pour les tzadikim, pour Yerushalayim, revenir à la ville de la Malchut. Ensuite, on a demandé le Mashiach. Bon, ben, j'ai envie de te dire, qu'est-ce qui nous reste à demander? Est-ce que vous pouvez voir un élément qu'on n'a pas abordé dans la tefila? Parce qu'a priori, on a abordé tous les sujets. Une fois qu'on a terminé, Baruch Atah Hashem, Baruch Atah Hashem, Matzmiach Keren Yeshua, où on a demandé le Mashiach, ben qu'est-ce qu'il nous reste à demander? Une idée? Non? Ben je vais vous dire. La bracha de Shema Kolenu a deux dimensions. Tout d'abord, on pourrait dire que c'est une bracha de conclusion des Bakashot. Voilà, Shema Kolenu. Est-ce qu'on peut se dire, honnêtement, d'après le judaïsme, qu'il y a un moment où je suis arrivé au top? Il y a un moment où je n'ai plus rien à demander. En d'autres termes, est-ce qu'on peut admettre qu'à un moment donné, dans ma relation avec Dieu, il n'y a plus rien vers le quoi tendre? Et ça, eh bien, les amis, c'est une grande question. Le Rav Kook, dans son livre Orot HaKodesh, nous explique que dans le judaïsme, il y a deux dimensions de lien avec Dieu. Il y a ce qu'on appelle la Shlemut et il y a ce qu'on appelle la Ishtalmut, c'est-à-dire la perfection et le perfectionnement. Et c'est ça toute la question. Est-ce que je peux admettre qu'il y a un moment donné où ma relation avec le Créateur est parfaite? Et bien la réponse est non. Sa relation avec nous est parfaite. C'est-à-dire que du point de vue de Dieu par rapport à nous, c'est Shalem. Mais de notre point de vue par rapport à lui, c'est en perpétuel complément, en perpétuel perfectionnement. C'est ce qu'on appelle en hébreu Ishtalmut, le perfectionnement. En d'autres termes, qu'est-ce que je demande dans la bracha de Shomea Tefila, alors que, a priori, bah, toutes mes demandes ont été entendues? Eh bien, je demande que j'ai toujours de quoi demander. Je demande que j'ai toujours quelque chose qui me permette de continuer à prier. Rentrons dans le vif du sujet. J'ai demandé Chonen Adat. J'ai demandé que Dieu me donne Dat. Il m'a donné. Ah, il a fait merde. Maintenant qu'il m'a donné Dat, ben, je comprends que j'ai des trucs que je ne comprends pas. Mon fils, je me bats avec lui pendant le confinement pour qu'il fasse des maths. Quitte à guimel, de faire des maths. Bon, maintenant le problème, c'est que mon fils, il apprend quoi ? Il apprend les soustractions, additions, tout ça, machin. Mon fils, pour l'instant, ne sait pas qu'il y a un truc qui va s'appeler, qui va lui pourrir la vie, qui va s'appeler des équations. Il ne sait pas que ça existe, les équations. Donc, pour lui, résoudre une équation, ce n'est pas une question. En lo daat par rapport à cela. Pour l'instant, il a une daat qu'on peut soustraire un chiffre à un autre chiffre. Il a fait, il va apprendre et il va recevoir plus de daat. Il va demander à Dieu, chodel la daat. Et puis, tout d'un coup, il va passer en, je ne sais pas combien, en quelle classe. Puis, on va lui apprendre qu'il y a des équations. Et tout d'un coup, cette daat en plus qu'il aura reçue, eh bien, lui fera prendre conscience que, ben, il y a des nouvelles choses qu'il ne savait pas et qu'il va falloir maintenant savoir. Par exemple, on lui a appris en kita guimel qu'on ne peut pas faire 0 moins 1. Si on te dit 0 moins 1 égale impossible. Pour l'instant, c'est 1 moins 0. Mais tout d'un coup, il va apprendre que ben non, on peut faire 0 moins 1, ça fait moins 1. En d'autres termes, date me permet d'avoir d'autres questions, puisque j'ai reçu de l'intelligence, et bien maintenant, je vais pouvoir aller encore plus loin. C'est pareil dans l'étude de la Torah. Je croyais que je savais tout. Et tout d'un coup, j'ai été à un cours qui m'a expliqué qu'en fait, sur le sujet que je croyais maîtriser, ben en fait, je ne maîtrise pas. Et donc, j'apprends encore plus, et ainsi de suite. On a demandé qu'on me donne Ashtiv Maneslach Lanou. Je fais plus d'Averot, donc j'ai plus besoin de Slicha. Oui, sauf que maintenant que je fais plus d'Averot, eh bien, je peux véritablement prendre conscience de qu'est-ce que ça veut dire la Slicha. À quel point j'ai maintenant porté atteinte à mon prochain. Et donc, je continue dans ma Slicha. Pareil pour ce qui est de mes problèmes avec les goyim. Maintenant que je suis indépendant, j'en ai des nouveaux, des problèmes avec les goyim que je n'avais pas avant quand je n'étais pas un État. Et ainsi de suite. Lorsque je parle de refoua, on peut toujours aller mieux. J'avais, disons que quelqu'un avait le corona. Maintenant, il n'a plus le corona. Bon, d'accord, mais maintenant, il a envie de retrouver une silhouette svelte. Donc, il continue encore plus loin. J'avais envie d'une parnassa sababa. Maintenant que j'ai une bonne parnassa, j'ai envie d'avoir une parnassa encore mieux. J'avais, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. En d'autres termes, la bracha de Shomea Tefila vient me dire, je ne veux pas être en mode shlemut, ça c'est toi, je veux être en mode ishtalmut, c'est-à-dire, eh bien, tout simplement, avoir toujours de quoi demander. Ce n'est pas être ce qu'on appelle en hébreu nudnik et ne jamais être satisfait. C'est la volonté de tout prendre conscience que dans ma relation à Dieu, on peut toujours aller au-delà. Ça, c'est la première façon de comprendre notre bracha. Mais si on veut comprendre encore plus la dimension de Shema Kolenu, eh bien, il faut comprendre que veut dire le mot Kol. Que veut dire le mot Kol? Eh bien, nous avons un commentaire de Philon d'Alexandrie, Philon à Alexandrie, qui a dit quelque chose d'assez incroyable par rapport au Mila, au mot Kol. Il dit Kol, ça veut dire le ton. Le ton. Vous savez, dans quel. Tu me parles sur un autre ton. Le ton. En d'autres termes, Shema Kolenu. On dit dans la Tfila de Shacharit, pas dans l'Amida, mais dans les Brachot, d'avant, on dit Kol Devarim Atem Shom'im. C'est un verset à la base des prophètes. Mais qu'est-ce que ça veut dire Kol Devarim? Ou alors, Ishma Bekol Divrei Elohim Chaim. Mazé Bekol Divrei Elohim Chaim. Alors. Les nouveaux sidourim, quand on parle de Kol Divrei Elohim Chaim, eh bien, ils ont mis une virgule après le mot Kol. pour dire, comme en hébreu moderne, qu'il faut que je parle bécole, c'est-à-dire à voix haute, d'ivrei Elohim Chaim. Quand je cite des versets, que je le dise à voix haute. Ce problème, c'est que ce n'est pas du tout ce que veut dire la tfila. Puisque, encore une fois, cette appellation « kol devarim atem shomim », c'est un verset. Et dans le verset, il n'y a pas de virgule après « kol ». Donc non, « kol », pour dire à voix haute, dans le Tanakh, on ne dit pas « bekol », on dit « bekol ram ». Donc, qu'est-ce que ça veut dire « kol devarim » ?« Dvarim », c'est les paroles. « Aval kol », c'est le ton. La façon dont tu dis les choses. La façon dont tu dis les choses, ce n'est pas seulement ça. C'est pas seulement l'accent, c'est en fait la façon dont c'est reçu par rapport à qui le dit. Il faut avoir le bon ton. Quand ma mère me disait tout le temps, tu me parles sur un autre ton, moi, en tant qu'enfant, je me disais, mais qu'est-ce que je te dise ? C'est comme, je me rappellerai toujours, alors, c'est pas au niveau de la voix, mais c'est dans le même, c'est, quand on comprend, c'est le même délire. Je me rappelle que lorsque j'étais en classe de terminale, j'étais un élève, problématique. Alors, pourquoi j'étais un élève problématique ? Pas tellement à cause de mes notes, ça allait, mais j'avais, d'après les dires de mes professeurs, un problème d'attitude. Bon, d'ailleurs, je crois que c'est en première cette histoire que je vous raconte, pas en terminale, mais enfin, bon, l'homme j'en ai. Une erreur d'attitude. Si bien qu'un jour, ma maman a pris rendez-vous avec la professeure de mathématiques principale qui m'avait refusé, je ne sais plus que ce soit encouragement, un truc comme ça. Mais ma mère ne comprenait pas parce qu'au vu de mes notes, je devais... Et la prof lui a répondu, il a une attitude exécrable. Alors ma mère lui a demandé, bon, je veux bien le croire, mais... Vous pouvez, parce que je vais devoir lui passer un savon à la maison, mais vous pouvez m'expliquer quelle est cette attitude exécrable. Et la prof de répondre, non mais ce n'est pas ce qu'il me dit, c'est la façon dont il me regarde. Je ne peux pas vous confirmer ou vous déconfirmer, peut-être que j'étais vraiment un sale gosse à l'époque, Yecholiot, mais c'est de cela qu'on parle. À col. C'est l'intonation, c'est-à-dire toutes les émotions que je vais faire passer dans ma lecture. Vous savez, mes parents sont des gens qui aiment beaucoup, moi aussi d'ailleurs, Fabrice Luchini, un grand acteur qui est capable de faire vivre des textes qui ont des centaines d'années. Alors que le même texte lu par quelqu'un qui ne sait pas lire, Zélo Bachou. Lorsque tu mets ton intonation dans ton texte, eh bien, tu fais vivre le texte. Il en va de même lorsque tu fais ta tefila. Celui qui est là et qui dit... Nous, il a fait la tefila, il a dit les mots, mais est-ce qu'il y avait une colle? Donc, c'est de cela qu'on parle. Dans la dernière bracha des Bakashot, on demande que j'ai toujours un contact avec Dieu, que j'ai toujours de quoi vouloir améliorer ma relation avec lui, mais ça va passer par à col chez lui. Regarde ce qu'il y a dans le timbre de ma voix. Regarde tout ce qui se passe avec mon intonation. Shema kolenu, Hashem Elohenu. Alors, il y en a qui disent Avarachaman d'abord, il y en a qui disent Avarachaman après, genre Shema Kolenu, Hashem Elohenu, Avarachaman, il y en a qui disent pas Avarachaman, qui disent juste Shema Kolenu. Dans le Nusar Sfard, dans lequel je prie, on dit Avarachaman, c'est-à-dire qu'on parle de Rachamim, puisque entendre ce qu'il y a dans mon cœur, c'est pas forcément lisible au premier abord. Donc, il s'agit de Midat Rachamim. Et donc, je lui dis Avarachaman, Shema Kolenu. Hashem Elohenu. Chous. Mazel chous. Verachem alenu. Chous. C'est le terme la chous. C'est me faire du bien avant qu'il soit trop tard. C'est avant que les problèmes n'arrivent. Donc chous, c'est Ribbono shel Olam entend mon intonation, ce que je demande vraiment avant que je sois en galère. Verachem, si jamais je suis déjà en galère. Donc il y a Chutz avant les problèmes, Rachem après les problèmes. Chutz verachem alenu. Vekabel berachamim uveratzon et tefilaten. Alors berachamim, on a déjà expliqué plein de fois, on ne va pas réexpliquer, mais qu'est-ce que ça veut dire beratzon? Ratson, ce n'est pas la volonté. Oui, en hébreu moderne, c'est la volonté. Mais quand tu utilises l'hébreu de la Tfila, l'hébreu du Tanakh, eh bien, Ratson, ça veut dire autre chose. Que veut dire le mot Ratson? Eh bien, lorsqu'on voit dans la Torah, on voit que le mot Ratson apparaît pour les korbanot. Qu'on veut que les korbanot soient les Ratson l'ifne Hashem. Eh bien, si on veut comprendre ce que veut dire là-bas le mot Ratson, eh bien, on va voir le traducteur de la Torah, à savoir... Rashi. Et Rashi nous explique que Ratson, ça veut dire apishmint belaz. Voilà, comme vous le savez, Rashi, des fois, il a du mal à expliquer en hébreu, alors il explique en français, enfin en ancien français. Et donc il dit Ratson, ça veut dire apishmint. Et qu'est-ce que ça veut dire le mot apishmint? Eh bien, tout simplement, vous savez, en anglais, c'est plus facile à comprendre. Apishmint, ça ressemblerait au mot appeasement. Ou en français, apishmint, apaisement. Apaisement. En d'autres termes, c'est quoi les ratson? C'est le ritsouï. C'est que ça fasse kiffer Dieu. Que ça soit dans l'ordre des choses. Que ce que je demande ne vienne pas porter atteinte à d'autres dimensions de dévoilement. Par exemple, je demande la parnassa. Ça va, Kadosh Baruch Hu, il sait que si moi, un mec comme moi, il est riche, il va devenir un monstre. Alors quand je demande ma parnassa, c'est Benigoud, le plan général de Dieu. Donc Zelo Lirtsono. Or, dans la Mishnah, dans Pirkei Avot, on dit Aser et Tsonra Kirtsono. C'est-à-dire, tu veux que ce qui te fait du bien fasse du bien également dans le projet global. Donc, Vekabel Verachamim ou Veratson et Tefilatenu. Que ce que j'ai demandé s'inscrive dans un Ratson général d'Akadosh Baruch. Vekabel Verachamim ou Veratson et Tefilatenu. Qui elle, Shomea, Tefilot, Vetachanunim, Ata. C'est-à-dire que tu n'écoutes pas seulement les Tefilot, mais tu écoutes également les Tachanunim. Quelle est la différence entre Tfila et Tachanoun? Il y a une partie de la Tfila qui s'appelle... Il y a une partie de la Tfila qui s'appelle Tachanoun. Juste après la Hamida d'ailleurs. Quelle est la différence entre Tfila et Tachanoun? Tfila, on a dit. Vous rappelez peut-être au tout début de notre étude, Tfila, ça vient du mot... Les Itpalel, les Femod. Tfila, c'est le féminin du mot Tfilin. Tfila, les Itpalel, Tfilin, c'est ce qui me permet, me revient. Je demande Midatadin. Les Itpalel, c'est la Hamod Benishpat. Seulement, ma Tfila, je la tourne en mode Tachanunim. Tachanun, Chanina, c'est que je demande aussi la dimension de Chesed. Tachanoun, ça veut dire donne-moi même si je ne mérite pas. Rachamim, on a dit, c'est laisse-moi le temps de mériter. Mais là, je demande Tfilot Vetachanouni. Des fois, je demande aussi, Ribbono shel Olam, fais-moi un kiff. Je sais que je ne mérite pas, Aval, fais-moi un kiff. Donc, il y a ces deux dimensions où la Rachamim s'inscrit dedans, évidemment. Tfila, Albin, Vetachanunim, Chesed. Donc on dit qu'il y a le tefilot, Vetachanunim, Ata, ou mille le fanecha, malkenu, rekam, al teshivenu. C'est-à-dire, je ne veux pas me retrouver dans une situation où, eh bien, ce que j'ai demandé, à savoir, pas seulement les brachot que j'ai dit avant, mais comme on a expliqué, ma volonté d'être toujours, de rajouter toujours à mon lien avec toi, eh bien, je ne veux pas que ça soit rec. Il n'y a rien de pire qu'une relation réca, où il y a la relation, mais il n'y a rien à l'intérieur. Donc, « Al-tashivenu rekam milfanecha. Chonenu ve'anenu ushema tefilatenu. Chonenu, on a dit, chanun, chesed, ve'anenu, din, je mérite, donc réponds-moi, ushema tefilatenu. » Ça, c'est la colle dont on a parlé tout à l'heure. Qui attache au mea tefilat kolpe. Il y en a qui disent qui attache au mea tefilat amecha Israël. C'est la même chose. Qui sont la bouche qui parle à Kadosh Baruch Hu? Eh bien, c'est Am Israël. C'est pour ça que dans le Moussar Sfard, on dit les deux. Qui attache au mea tefilat kolpe amcha Israël berachamim. Baruch ata Hashem shomea tefilat. Et ben voilà. Et ben voilà, on a terminé les brachot des bakashot. Donc on n'a plus rien à demander. On n'a plus qu'à dire merci. Ben, c'est pas mal, bien fait. Seulement, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais lorsqu'on avait commencé la première bracha des bakashot, eh bien, dans Chonen Hadat, on avait dit oui, mais elle ne commence pas comme toutes les autres. Puisque dans toutes les autres brachot de Bakasha, on commence, on ouvre la bracha par une demande. Reina, Refaeno, Barer. Alors que pour Chonen Hadat, on commence par Ata Chonen. Avant de dire Vechonenu. On avait expliqué là-bas que Ata Chonen, c'est un Shevar. Ça fait le lien entre les trois premières tfilot et les Bakashot. Et pourquoi est-ce qu'on commence par un Shevar avant de commencer Mamash à demander? Parce que si tu n'as pas de date de base, tu ne peux pas savoir qu'est-ce que tu veux demander. C'est ce qu'on avait expliqué. Eh bien, il en va de même dans la conclusion. La première bracha des trois brachot de Hoda'a, de remerciement, commence par une demande. Retse, retse, amecha Israël, retse Hashem Elohim, c'est rabbi amecha Israël, ovitfilatam she. C'est-à-dire que la première bracha des remerciements est tournée dans un langage de demande. Lama, eh bien tout simplement parce que c'est cette bracha-là et une demande cachée et un remerciement. Cette bracha-là de Retse parle de quoi? Eh bien parle tout simplement de la avoda. Quel Retse Hashem Eloheinu b'amcha Yisrael tfilatam she'e v'ashev et ha Avoda. Avoda. Avoda, qu'est-ce que c'est? Avoda, c'est Avodat Beit HaMikdash. Donc, de quoi parlons-nous ici? On parle de du Beit HaMikdash. Et la question est la suivante. Est-ce que on demande le Beit HaMikdash en ce moment? Ou est-ce qu'on remercie qu'il y ait le Beit HaMikdash en ce moment? Vous allez me dire, bah, évidemment qu'on demande qu'il y ait le Beit HaMikdash, il n'y a pas le Beit HaMikdash. Seulement, on a un problème. Alors, pour comprendre ce problème, nous allons faire une expérience scientifique absolument incroyable. Je vous demande de bien ouvrir vos yeux. C'est une expérience totalement nouvelle, totalement inédite que je vais faire devant vous. Alors, c'est pas compliqué. Regardez comment ça va se passer. Hop là, je prends ici... Voilà, j'ai tout ce qu'il faut, c'est parfait. Voilà. Et oui, aujourd'hui, c'est du bricolage. J'utilise les Playmobil de ma fille, ce sera très bien. Donc voilà l'histoire. Nous avons, comme vous pouvez le voir, je vais baisser un tout petit peu la caméra pour que vous puissiez bien le voir. Nous avons ici un pilier, je le mets là, voilà, vous avez un pilier. Un deuxième pilier et la tête de ce Playmobil sera le troisième pilier. Pourquoi j'ai besoin de ces trois piliers? Bien simplement parce que je veux faire tenir dessus quelque chose. Et voilà. Donc vous voyez, nous avons ici un très belle bassine rose qui tient sur trois piliers. Faisons l'expérience et voyons ce qui se passe si j'enlève un de ces piliers. Attention, expérience. Je vais donc enlever ce pilier ici même, à savoir la tête du Playmobil. Attention, j'enlève le pilier. Regardez, ça va être terriblement scientifique. Hop là ! Eh bien voilà, j'ai enlevé le pilier et la bassine s'est effondrée. J'espère que vous, à la maison, vous m'applaudissez pour cette expérience scientifique incroyable. Bon, seulement pourquoi j'ai fait ça ? Eh bien parce que la bassine représente le monde. Ah bah oui. Eh bien oui, puisque la Mishnah dans Pirkei Avot me dit qu'il y a trois piliers. À la Torah, vers la Avoda, vers le Gemilut Hasadim. Torah, l'imouda Torah, on comprend. Gemilut Hasadim, faire le bien, faire du chesed autour de soi, on comprend. Yesh Torah Adayom. Yesh Gemilut Hasadim Adayom. Il y a Torah et il y a la bonté. Aval maima avoda. Avoda, c'est avoda de Beit Hamikdash. Or, d'après mon expérience scientifique incroyable, s'il n'y a pas de Beit Hamikdash, eh bien, il n'y a pas non plus de monde, puisque sans un des trois piliers, le monde s'effondre. Donc, on ne peut pas objectivement se permettre de dire que le Beit Hamikdash n'est plus. Et c'est effectivement ce que nous disent nos sages, que depuis la destruction du Beit Hamikdash, eh bien, il y a un Beit Hamikdash là-haut. Un Beit Hamikdash de ce qu'on appelle le monde des idéaux, un Beit Hamikdash dans les mondes supérieurs. Et nous dira même le Midrash que chaque jour, puisqu'il ne s'agit pas d'avoir des murs, il faut la avoda. Eh bien, nous dit le Midrash que chaque jour, Michael, Assar, Agadol, l'ange Michael, le grand ange, le patron des anges, Makriv kol yom et nishmotehem shel atzadikim bemikdash shel mala. Que Michael sacrifie les âmes des tzadikim dans ce Beit Hamikdash d'en haut, tous les jours. Et donc la avoda continue. La avoda continue, mais c'est une avoda terrible. Et ce n'est pas du tout de cette avoda qu'on veut. Et c'est la raison pour laquelle, dans notre bracha, on dit merci qu'il y ait quand même la avoda, sinon le monde n'existerait plus, même si ce n'est pas nous qui faisons la avoda, mais on demande que cette avoda revienne chez nous. Retse Hashem Eloheinu Be'amecha Israël ou Bitfilatam She'e. Accepte. Pourquoi ? Ve'achev et ha'avoda lidvir betecha. C'est-à-dire que je veux que la avoda, avoda de Beit Hamikdash, revienne non pas là-haut dans le Beit Hamikdash supérieur, mais revienne lidvir betecha. Ve'mazé dvir, dvir c'est l'un des noms du Beit Hamikdash ici. Pourquoi ? Parce que, pourquoi est-ce que le Beit Hamikdash s'appelle dvir ? Parce que c'est mekom adibour, dvir milachon dibour. En d'autres termes, le Beit Hamikdash est l'endroit où il y a la relation de parole entre Ribono shel Olam et la création et le peuple juif. En d'autres termes, j'ai bien compris qu'il y avait tous les jours un Beit Hamikdash qui fonctionnait là-haut, mais c'est pas celui-là qui m'intéresse. Todaraba pour celui-là, mais je veux qu'il revienne ici. Je veux que tu me permettes de pouvoir ramener le Beit Hamikdash ici. Vachev et avoda lidvir betecha. Et donc on comprend la suite. Veiché Israël utfilatam. Mais c'est Iché. Iché, ce ne sont pas les gens. Iché, c'est le pluriel du mot esh. C'est-à-dire qu'on parle de sacrifice ici. Et les feux d'Israël, sacrifice. Veiché Israël utfilatam. Mehera be'ahava tekabel beratzon. On a déjà expliqué ce que voulait dire le mot ratzon. Utei le ratzon tamid avodat Israël amecha. Eh oui. Et qu'est-ce que ça veut dire? Utei le ratzon tamid avodat Israël amecha. Comprenons bien. Notre rôle est de dévoiler Akadosh Baruch Hu. Notre rôle est de dévoiler Akadosh Baruch Hu. Mais est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait comme il faut? Est-ce qu'on prend conscience de notre rôle? Je vais vous dire une chose à laquelle j'ai dû faire face hier. Dans ma Atzmaout, machin, et dans un des groupes WhatsApp, quelqu'un m'a envoyé une vidéo et était choqué. Il m'a dit, quoi, c'est vrai ça? C'est incroyable, je ne savais pas, mais c'est terrible. En fait, on m'avait envoyé une vidéo d'un cours, assez ancien d'ailleurs, d'un rabbin qui est très, très connu dans le monde de la Chazara Bitshuva, en hébreu, et pas en français, mais il s'appelle le Rav Amnon Yitzhak. Et on m'a envoyé un cours dans lequel ce rabbin est terriblement difficile, dur, envers Binyamin Zeev Herzl Zatzal. En disant qu'en fait, il était pire que Hitler. Begadol, il te dit que Herzl, c'est pire qu'Hitler. En gros. Et c'est très, très souvent ce qu'on entend dans le mainstream Haredi. Bien sûr que c'était un tissu de mensonges, tout ce qu'il avait dit dans ce cours. Et bien sûr que malheureusement, la majorité des gens qui parlent d'Herzl, par exemple, n'ont jamais lu Herzl, par exemple. Mais ce qui était terrible, c'est que dans cette idéologie-là, de ne pas vouloir voir dans le retour d'un peuple juif sur sa terre en tant que nation, de ne pas vouloir y voir le moyen d'avoir un rôle à jouer dans le monde, eh bien, ça fait de nous des gens qui doivent continuellement être enfermés dans leur petit ghetto, dans leur petit shtetl, à étudier leur daf de Gemara. Seulement, notre rôle n'est pas de nous enfermer et d'étudier notre Torah. Notre rôle est d'enseigner le dévoilement de Dieu au monde entier. Je suis d'accord que pour pouvoir enseigner quelque chose, il faut avoir appris quelque chose. C'est évident. Mais cela veut dire que l'enfermement ne peut pas être tout simplement notre rôle. Et Avodat Israël Amecha doit avoir un lien avec le monde entier. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Botaï, qu'à Sukkot, nous allons faire toute une flambée de sacrifice pour les goïms. Eh oui. Parce qu'on comprend très bien que notre rôle est d'avoir une influence dans la relation entre l'homme et Dieu pour tous les hommes. Seulement, cette bracha-là, qui nous parle donc de la avoda, du Beth Amikdash, eh bien, se termine de manière un petit peu particulière. Puisqu'elle se termine en disant, alors je prends la fin de la bracha, Veterezena einenu beshuvecha letzion berachamim. Bon, chez les Sfaradim, on dira Veata berachamecha arabim tachbots banu vetirzenu. Veterezena einenu beshuvecha letzion berachamim. Cet ajout, Veata berachamecha arabim tachbots banu vetirzenu. Pourquoi est-ce qu'on a le sentiment qu'il faut rajouter cette phrase qui dit « Dieu ne... » Comment on dit en français ?« Al titiaesh mitano » « Ne désespère pas de nous » et continue à vouloir que ce soit nous, âme Israël, qui devons te représenter. Pourquoi est-ce qu'on a tendance à dire cela ? Ben justement, parce qu'on a dit. Parce que des fois, âme Israël, il ne prend pas au sérieux son rôle. Donc, les Bnei Asfaradim nous disent Dieu, Altikesh, on va finir par le prendre notre rôle. Et c'est là qu'on dit, Veterezena inenu beshufra letzion berachami. Fais que nos yeux voient ton retour à Sion berachami. Fais que nos yeux voient. Donc ça veut dire que toi, tu reviens. Mais il y en a qui voient et il y en a qui ne voient pas. Et c'est ce que va dire Rabbi Yehuda Lévi dans Sefer HaKuzari, lorsque le Melech Kuzar demande au Haver, il dit, mais alors, d'après tout ce que tu me racontes, comment ça se fait que tu n'es encore pas en Israël? Parce que d'après tout ce que tu me dis, il faut être ici, enfin, il faut être là-bas, il parle en Kuzares, en Espagne en l'occurrence. Il dit, d'après tout ce que tu m'as expliqué, il faut qu'un Israël soit en Eretz Israël. Et là, ça fait un Kuzari, Mahamar Sheni, nous dire le Haver, Gilita Mekom Kherpati Melech Kuzar. Voilà, tu as dévoilé l'endroit de ma honte, Melech Kuzar. Parce que lorsque nous parlons à Dieu, nous sommes des menteurs, dit Rabbi Yehuda Lévi. Et nous disons trois fois par jour, mais nous n'y croyons pas. Et nous mentons. Nous ne voulons pas revenir à Sion. Terrible, terrible jugement de Rabbi Yehuda Lévi qui connaît tellement bien son époque. Aujourd'hui encore, il y a des juifs. Shem lo, rotzim lirot. Arrête, Dieu revient! Dieu, il est revenu. Qu'est-ce que je te dis? Je peux pas te la jouer à l'envers. Dieu est revenu. 7 millions de juifs en Israël. Une Torah florissante en Israël. Une terre d'Israël qui redonne ses fruits. Une terre d'Israël qui est devenue une puissance extraordinaire. Un peuple juif incroyable. Dieu est revenu. Mais il y en a qui le voient. Et il y en a qui ne le voient pas. Et je vais vous donner une autre anecdote. Ne le répétez à personne. Ne le répétez à personne, je vous demande vraiment. J'en avais déjà parlé dans le cours sur, enfin ceux qui ont suivi, dans le cours de Chanukah de Bayit. C'est pas notre cours à nous du jeudi matin, mais j'ai donné un cours que vous pourrez voir sur Yom HaTzmaout, Chanukah de Bayit s'appelle, dans lequel j'ai parlé de mon beau-frère, ma belle-sœur, qui habitait en Israël, sont partis vivre en Angleterre. Et ils sont chabadnikim de leur état. Donc, ça veut dire pas fondamentalement sioniste, hein, pour être gentil. Et lorsque hier, après-midi, ma femme a appelé sa belle-sœur pour lui souhaiter chag sa mère, elle lui a demandé, alors qu'est-ce que vous faites de spécial aujourd'hui? Ma belle-sœur a répondu, rien. C'est un jour normal, comme tous les autres jours. Elle dit, mes enfants ne savent même pas qu'il y a une journée particulière aujourd'hui en Israël. Ze boucha vecherpa. Ze boucha vecherpa. D'abord, ze boucha parce que celui, dit le Talmud, celui qui ne se réjouit pas besimchat ha'uma, eh bien n'aura pas la chance de participer aux joies du Beth Amikdash. Celui qui ne pleure pas également pendant les tristesses du peuple juif n'aura pas la chance de la voir, de voir ce peuple juif et cette Jérusalem reconstruite. Mais c'est terrible. C'est terrible de faire passer Yom HaAtzmaout pour un jour comme les autres et qu'on ne sache même pas qu'il s'est passé un truc. C'est terrible. C'est d'autant plus terrible à Bota et dans le cas présent que tous les enfants en question qui ne savent même pas qu'il s'est passé un truc sont tous nés en Israël et ont profité de tout ce que la terre d'Israël avait à leur offrir et de l'État d'Israël également. C'est honteux. Et c'est « V'techezena einenu b'shufra l'etzion b'rachamim ». Fait que nos yeux voient, parce qu'il y en a tellement qui ne voient pas et qui ne veulent pas voir. Alenu lirot, c'est ce qu'on dit. Fais que nos yeux voient. Beshuvecha letzion berachamim. Baruch. Attends. Alors là, il y a des gens qui disent, qui me rase. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans une synagogue, mais quand il y a des gens qui disent, tu as toujours un 2, 3, 4, 5 mecs dans la synagogue qui crient derrière, qui me rase. En fait, c'est quoi? C'est simplement parce qu'il y avait une marloquette entre le sidour de Rav Amram Gaon et le sidour de Rabbeinu Saadia Gaon. Dans le Sidour de Rabbeinu Saadia, il avait marqué « Veterezena enenu, beshufra le tzion berachamim kimeaz » C'est-à-dire comme à l'époque. Dans le Sidour de Rav Amram, il n'y a pas marqué kimeaz, et on a plus adopté le noussar de Rav Amram. Mais il y a quand même dans les synagogues des mecs, chez moi il y en a un, qui garde comme ça la noussar de Rabbeinu Saadia, et donc qui crie « Kimeaz ». On dit « Baruch ata Hashem, amachazir shechinato le tzion ». On lui dit merci pour ça, qu'il a ramené sa shrina à Tzion depuis 72 ans. Et cette shrina ne va que en augmentant et en augmentant et en augmentant jusqu'à ce qu'un jour, Be'ezrat Hashem, y compris mon beau-frère et ma belle-sœur, eh bien, réouvriront les yeux et pourront enfin, tout simplement, se rattacher à ce qui se passe dans le monde d'Akadosh Baruch Hu. Baruch Ata Hashem, Amachazir, Shechinato, Letzion, Veshabbat, Shalom, les coulants. À bientôt.